Interview.
2 jours.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, nous allons nous intéresser à une opération qui s'appelle Prendre le maquis avec moi dans le studio. Pour commencer, Philippe Anu, historien du CPIE Vercors, qu'on commence à bien connaître à l'antenne. Bonjour.
Bonjour.
La dernière fois qu'on s'était vu d'ailleurs, et je vais commencer comme ça, c'était dans le cadre d'une émission Au rythme du parc, où nous parlions des 70 ans qui étaient fêtés un petit peu partout sur le parc naturel régional du Vercors. Un petit mot là-dessus, bien que l'opération ne soit pas terminée, elle va durer un an.
Oui, effectivement, c'est assez troublant ce qui s'est produit, parce qu'on a constaté sur l'ensemble du territoire Vercors une très grande mobilisation de collectifs d'horizons très différents autour de cette thématique du 70e anniversaire de la Libération. Plus de 80 événements culturels de nature diverse. Ça a pris la forme de randonnées à la découverte de sites, de stèles, de pièces de théâtre, de poésie, etc. etc. Et on est les premiers surpris de cet engouement populaire. De toutes sortes d'individus se sont sentis concernés par cette thématique.
Avec des inscriptions spontanées, il fallait aller chercher pour s'inscrire dans les randonnées, ce genre de choses
pas nécessairement. Il y a des choses qui étaient portées à l'échelle d'une commune, d'un office de tourisme, d'une bibliothèque, vraiment des collectifs d'habitants qui, à un moment, se disent tiens, ça me concerne, et on montre quelque chose.
Voilà, donc vous n'êtes même pas allé chercher particulièrement ce public, c'est vraiment, ça a été des petites, j'allais dire, des fêtes de village.
Oui, 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 bien sûr, il y a ça qui, effectivement, s'est produit, en particulier cet été, parce que à l'occasion des événements comme à Saint-Martin en Vercors, on a commémoré la République rétablie dans le Vercors, il y a eu comme ça plein de gens qui se sont rassemblés, il y avait un esprit de fête assez sympathique.
Alors, si tu pouvais nous donner quels ont été tes moments préférés ou forts, même si pour pas détruire les autres, mais...
Je sais pas, moi il y a des tas de choses que j'ai beaucoup appréciées. Je vais commencer par quelque chose qui est a priori très modeste. Ça se passe à Autran, en Isère, le 8 mai de 2014. Voilà, commémoration classique, rassemblement autour du monument aux morts. Le maire lit le discours du secrétaire d'État aux anciens combattants. Et puis, l'après-midi, il y a deux comédiens qui proposent un temps de lecture de textes d'auteurs liés à la résistance, René Char, de la résistante Delbo également. Et puis là, il y a d'un seul coup des gens qui ne se lèveraient pas forcément le matin pour aller faire leur devoir de mémoire, comme on dit, mais qui viennent écouter, réfléchir et rencontrer ces comédiens. Et moi, j'ai trouvé ça très très fort. C'était tout petit, modeste, mais extrêmement sympathique.
Ça a cassé un peu le truc rigide de la commémoration qui fait un peu peur.
Oui, bien sûr.
C'est pas beau et tout ça.
Surtout celle de Vassieux du 21 juillet, où effectivement, ouais. Il y a un climat entre guillemets républicain. Bon, c'est une commémoration d'État en présence des ministres avec un protocole un petit peu lourd, mais en même temps, il se passe quelque chose. Et là aussi, malgré la météo catastrophique, il y avait du monde.
Et quand nous nous étions vus ce 21 juillet, justement, nous étions au musée de la Résistance qui proposait aussi une exposition un petit peu particulière sur sa conception. Comment elle a été perçue ?
Honnêtement, j'en sais rien.
Ah, voilà. C'est encore trop tôt pour faire le bilan.
Oui, oui, tout à fait. Peut-être que ça a permis à une partie de la population locale du village de Vassieux de enfin se dire ce mémorial, c'est un petit peu nous, parce qu'il est souvent perçu comme un immense vaisseau de pierre, c'est la mémoire surplombante, et que la population ne s'y retrouvait pas nécessairement. Et peut-être que là, justement, réfléchir sur l'histoire de la genèse de cet établissement, ça a peut-être permis aux habitants de la commune de se dire oui, tiens, au fait, il y a un petit peu de nous là-dedans.
Avant qu'on se concentre sur l'opération Prendre le maquis, enfin ces journées qui s'enchaînent vendredi 17, samedi 18 octobre, qu'est-ce qu'il y a encore de prévu autour de ces 70 ans pour finir l'année ?
Je crois que là, ça va bientôt être la fin des rendez-vous. Il y a encore quelques projections de films documentaires ici ou là, des travaux dans les écoles, mais globalement, enfin... Nous, on avait un petit peu pensé nos rencontres sur le thème du maquis comme une espèce de grande conclusion de cette année commémorative. Enfin, concernant le 70e, après sur le centenaire de la Grande Guerre, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui se passent ici ou là.
Et puis, c'est ce qu'on disait dans la dernière émission, il ne faut pas qu'on s'arrête de toute façon. C'est plus le devoir de mémoire maintenant, c'est le
travail de mémoire.
C'est le travail.
Ouais, ouais.
Oui, ça a été cité, rencontres. Donc, c'est les rencontres nomades qu'organise le parc naturel régional du Vercors. Parle-nous de ces rencontres nomades. Quel est l'objectif, d'une manière générale?
C'est un temps que nous, on a pensé il y a une quinzaine d'années dans l'utopie de faire se rencontrer toutes les personnes qui se rassemblent dans des collectifs d'histoire locale, de valorisation du patrimoine, etc., qui font des choses parfois très généreuses et très belles à l'échelle d'un village, d'un canton, qui produisent des textes, qui font des expositions, etc. Donc faire se rencontrer ces groupes avec peut-être le monde de la recherche en sciences sociales et les dispositifs de l'action publique, c'est-à-dire ce que font les musées, les services de valorisation du patrimoine dans les départements, etc., etc. Il y a parfois un petit peu de malentendus, de compétition, puis aussi l'action du parc. Et notre idée, c'était de favoriser un temps comme ça, où bien voilà, des chercheurs en sciences sociales, des sociologues, des anthropologues, des géographes viennent à la rencontre aussi des passionnés d'histoire, ce qu'on appelle parfois les chercheurs en herbe, pour qu'il y ait un petit peu des nouvelles problématiques qui émergent, qu'on s'interroge sur le vivre ensemble. Et puis, c'est aussi une manière pour nous, CPE, entre guillemets, qui avons une mission d'éducation au patrimoine et à l'environnement, délégué par le parc, d'ouvrir un certain nombre d'espaces de discussion sur les sujets de société, hein, autour de... Alors, voilà, ça concerne les rapports à la nature, ça concerne les enjeux de la mobilité aujourd'hui, les transports, les services publics, ça peut être aussi bien sur l'identification, l'attachement, le sentiment d'appartenance au territoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ou ne pas dire d'ailleurs, être habitant d'un parc? Qu'est-ce que ça signifie être du Vercors, par exemple? Donc voilà, c'est des thématiques diverses et variées que nous, on aime comme ça mettre en discussion, en tension entre la recherche académique et l'érudition locale. Et puis, bah, évidemment, ce qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire les populations qui habitent nos territoires ou qui sont de passage.
L'année dernière, les rencontres nomades traitaient de l'industrie. L'industrie dans le Vercors, vous aviez fait des parallèles en invitant des parcs naturels régionaux d'autres secteurs, notamment en Lorraine. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. Qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là?
Ben justement, voilà, c'est la question du paysage industriel, par exemple, c'est un impensé des territoires ruraux. Hein. Aujourd'hui, le monde rural, il est mis en scène comme un territoire essentiellement tourné vers le monde agricole. Et quelle idée du monde agricole, en plus, souvent un petit peu esthétisé, naturalisé. Et notre idée, c'était de montrer que l'industrie à la campagne, elle est omniprésente depuis le Moyen-Âge et qu'elle participe de la vitalité aussi de ces territoires ruraux qui sont parfois, oui, présentés d'une manière un peu caricaturale, comme des espaces sans histoire. Donc voilà, une des idées, c'était de dire, ouais, tiens, il y a un paysage. Bon, on peut prendre l'exemple de Die, hein, il y a des vestiges industriels, mais finalement, on ne les voit pas sur les cartes postales. Et pourquoi on ne veut pas les regarder? Voilà, ça, c'était la question qu'on s'était posée. Tiens, et si on regardait autrement la morphologie de nos territoires?
Et qu'est-ce que ça va faire? Quel en est le but?
Le but, c'est de réfléchir à la mécanique du social, à ce qu'a pu être la réalité socio-économique d'un territoire, pour peut-être bah justement aujourd'hui se dire, tiens, le monde industriel, c'est peut-être pas que des grands groupes mondialisés voilà, qui délocalisent en Chine ou en Bangladesh, mais que tiens, il y a aussi eu à un moment des énergies, des ressources ici ou là, et que ça participe à la dynamique de ces territoires ruraux, qui sont parfois quand même en déshérence économique. Donc aujourd'hui, bah, c'est peut-être aussi, non pas être dans la mélancolie et la nostalgie, simplement dire, tiens, en s'appuyant sur ce qu'a été notre histoire, on peut peut-être... J'ai appréhendé le présent et le futur avec un peu plus d'enthousiasme.
Voire proposer que ça se reprenne, que ça reparte.
Pourquoi pas, hein. Et quitte à d'ailleurs à ce que ces sites industriels hébergent d'autres manières de penser le monde du travail. Ça peut être aussi des centres culturels, ça peut être des tas de choses comme ça, quoi.
Moi, j'avais été marqué par l'histoire de la pierre du Vercors, hein, qui va jusqu'à faire le socle de la statue de la Liberté,
ouais, c'est incroyable, voilà.
Ou des bouts de canal de Suez, donc ouais. C'est vrai que c'est... Allez, on va passer donc à cette conclusion de la grande opération, les 70 ans de commémoration des 70 ans des guerres, en tout cas sur l'ensemble du parc naturel régional du Vercors, avec Prendre le maquis et les rencontres nomades. 17 octobre, c'est en Ardèche, et puis le 18 octobre, c'est à La Chapelle en Vercors. Alors, on va quand même parler un petit peu de l'Ardèche.
Oui, alors, pourquoi l'Ardèche? C'est parce que ces rencontres, elles sont co-construites avec un réseau qui s'appelle Mémora, qui est une association qui fédère des responsables de musées, d'institutions culturelles dans l'ensemble de la région Rhône-Alpes, et même dans les pays voisins. On travaille avec des Suisses, on travaille aussi avec la Belgique, l'Italie, etc. Alors, je dirais, de la disparition des témoins oculaires. C'est-à-dire qu'on sait que les acteurs de la Seconde Guerre mondiale, voilà, un à un, cassent leur pipe. Il y a un récit très fort qui est reconvoqué aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette matière? Et donc, les responsables de ces musées ont souhaité se fédérer pour réfléchir ensemble sur leur devenir, leurs pratiques, comment on pense une exposition aujourd'hui, pas simplement sur un lieu précis, mais à l'échelle d'une région qu'est la région Rhône-Alpes, etc., etc. Mémora, c'est aussi un lieu qui fédère des chercheurs. Donc pas que des historiens, des sociologues, qui réfléchissent aussi sur la mécanique de la mémoire, qu'est-ce que c'est que la mémoire collective, comment ça fonctionne, sur la mobilisation aussi des publics, c'est intéressant, parce que qui va dans les musées aujourd'hui? Est-ce que c'est des publics captifs comme les scolaires? Est-ce que c'est des touristes? Est-ce que ça a du sens aujourd'hui d'aller un dimanche monter au musée de Vassieux? Pourquoi on fait ça? Donc c'est aussi un des objets de Mémora, et donc de réfléchir aussi dans une perspective européenne. Voir comment nos amis allemands ou espagnols, ou catalans appréhendent ces questions-là. À partir du moment où on travaille à l'échelle de la région Rhône-Alpes, l'Ardèche fait partie de nos terres aussi de prédilection, et il y a un petit musée assez discret au Teille. On a décidé de s'y rendre, et puis avec la responsable Anne-Claire Noirban, d'organiser une des étapes de notre réflexion sur le maquis. L'idée force étant aussi de sortir peut-être certains territoires, en particulier le Vercors, qui sont...
qui a la renommée, quoi.
Qui a la renommée, bon. Voilà. C'était un petit peu l'idée, c'était de sortir...
La renommée, c'est pas le bon mot, mais...
qui est gravé en lettres d'or dans la mémoire collective.
C'est clair.
Sortir le Vercors du Vercors et montrer que finalement, on ne peut comprendre le phénomène maquis qu'en reliant les territoires. C'est-à-dire que le Vercors ne peut être expliqué que si on s'intéresse à l'Oisan, qui était juste à côté, le Trièves, le Diois, évidemment, les Baronnies, et puis la vallée du Rhône, et le Teille, c'est à côté. Et finalement, on va se rendre compte qu'il y a une mécanique... très intéressante, qui relie ces territoires en contexte de guerre, où il y a des circulations, des mobilités, des échanges, etc. Et ça va être une manière finalement de réfléchir aussi sur les systèmes de territoires sous l'occupation.
Philippe Anu, tu es historien, dis-nous quelle était, en quelques mots, l'histoire du maquis de l'Ardèche. Parce que c'est vrai que je crois, moi, n'en avoir jamais ou à peine entendu parler.
Très sincèrement, je ne la connais pas. Ah. Donc je me garderai bien de dire, justement, parce qu'effectivement, c'est une histoire qui est peu connue. Alors, il y a des sites exemplaires. Par exemple, il y a un site, une toute petite commune qui s'appelle Tine, une commune de, je crois, il y a 14 habitants, aux confins de l'Ardèche et de la Lozère, où il y a eu des massacres très forts au cours de l'été 44. Bon, des villages incendiés, c'est assez proche aussi de ce qu'on connaît dans le Vercors.
Et, une sorte de représailles quand ils essaient de remonter. Voilà.
Et il se trouve que les maquisards qui se sont rendus sur cette commune, ils venaient en partie des Baronnies et des Hautes-Alpes. Donc c'est intéressant parce que ça montre que finalement les maquis sont certes s'implantent quelque part, mais ils nomadisent aussi beaucoup, et qu'à un moment, on peut s'engager dans la résistance dans une région et ensuite aller se battre dans une région voisine. C'est un petit peu ça l'idée force. Mais moi, je vais être comme vous, finalement, le 17. Je vais découvrir avec beaucoup de plaisir ce qu'a été aussi la résistance ardéchoise. Alors, on a une anthropologue qui s'appelle Sylvette Béraud-Williams. C'est une fille qui est assez connue parce qu'elle a également travaillé dans le Diwa autour des dispositifs CLIC, sollicitant la mémoire des personnes âgées du Diwa. Et donc, elle va nous présenter quelques traces, quelques réflexions concernant les maquis ardéchois.
Notamment sur leur environnement. Voilà.
Oui.
Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Il va y avoir le phénomène maquis, un bilan historiographique. Tiens, ouais. J'apprends ce mot.
Alors en fait, l'historiographie, c'est un petit peu l'histoire de l'histoire. C'est l'histoire de la discipline histoire. Ouais, et
comment
finalement...
est-ce qu'on l'écrit?
Ouais. Et ça, c'est très important parce que finalement, l'histoire, c'est jamais quelque chose qui est là, gravé ad vitam aeternam dans un grand récit de la société.
C'est... Parfois, c'est même un peu édulcoré.
Voilà.
Un peu...
Oui, et puis c'est aussi un objet de débats, de luttes entre différentes écoles. Et faire l'historiographie d'un phénomène comme le maquis, c'est montrer aussi finalement comment cette histoire-là a été problématisée, débattue, au sein du champ académique, de l'après-guerre jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, il y a des enjeux assez forts, par exemple autour du maquis des Glières en Haute-Savoie, où certains historiens tendraient à minimiser les événements qui ont pu s'y produire, avec parfois des lectures... révisionniste, etc. Il y a aussi des enjeux nationaux aujourd'hui, certains historiens tendant à penser que la résistance française c'était peu de choses, qu'on a peut-être exagéré, etc.
C'était important pour la propagande, quoi.
Voilà. Mais également d'autres historiens qui disent au contraire, la résistance c'est quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps, c'est quelque chose de très sérieux et de très, très important. Donc Jean-Marie Guyon, qui est vraiment un des grands spécialistes de ces thématiques-là, qui est professeur à l'Université de Provence à Aix, viendra nous éclairer sur cette thématique. La journée, nous on l'a vraiment pensé, les deux jours, on l'a pensé pas simplement pour éclairer l'histoire de nos territoires, mais justement nous aider à prendre un petit peu de hauteur, à opérer une montée en généralité et à réinscrire la chronique locale dans une réflexion sur les sociétés européennes en contexte de guerre.
tu recites l'Europe et tout à l'heure c'était cité en parlant notamment des Allemands, du point de vue des Allemands. Est-ce que il y a un croisement maintenant qui se fait dans la manière dont les Allemands, en tout cas à l'époque, percevaient le maquis et comment nous on le perçoit et l'histoire qu'on en a faite.
Tout à fait.
Est-ce que ça se rejoint un peu quand même?
Alors je ne sais pas si ça se rejoint. Oui, il y a des passerelles. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des tas de chercheurs aujourd'hui en Allemagne qui effectivement avec les sources allemande, c'est-à-dire par exemple du point de vue de la Wehrmacht, qui exhume des archives. Les fonds d'archives sont aujourd'hui accessibles à Berlin, par exemple. Et il y a un historien qui s'appelle Peter Lieb, qu'on avait invité pour nos rencontres. Malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible. Il enseigne dans une université britannique et qui a écrit des travaux très intéressants sur la manière dont l'armée allemande a envisagé la répression des maquis de l'Est de la France, en particulier des maquis du Jura, de la Haute-Savoie et du Vercors. Mmh. Donc ça, c'est des travaux qui viennent aujourd'hui irriguer nos propres réflexions, et c'est super intéressant. Donc oui, bien sûr, on se rencontre. Alors voilà, les sources ne sont pas tout à fait les mêmes, la manière dont on fait de l'histoire dans les différents pays européens n'est pas toujours la même, mais il y a quand même aussi des terrains de rencontre fructueux.
Et puis on dit que l'Allemagne a fait un travail de mémoire plus important que la France.
Disons qu'ils n'avaient peut-être pas le choix, ils étaient du mauvais côté de l'histoire. Et effectivement, il y a un travail considérable qui est fait en particulier dans la ville de Berlin, mais dans des centres d'interprétation exceptionnels avec des moyens et puis une vraie conscience, d'un humanisme à réinventer qui fait peut-être défaut à la manière dont nous on appréhende ces questions-là en France. Ouais.
Et puis pour terminer avec cette journée du 17 octobre, enfin en tout cas dans sa présentation, je lis « Maquis antifasciste allemand dans le sud de Rome ». Alors il y avait donc des Allemands qui se sont insurgés.
Oui, ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Et ça pour nous c'était important de le donner à entendre à notre public, dans la mesure où on a parfois une vision un peu binaire.
Hein, oui, l'allemand est méchant.
L'allemand est méchant, il est nazi. Oui. Hein, d'ailleurs, c'est pareil, les soldats de la Wehrmacht ne sont pas tous nécessairement nazis. Il y a des gens qui ont été enrôlés dans une armée nationale en contexte de guerre et qui se retrouvent à aller effectivement devoir...
J'ai même lu qu'entre 1944 et 1945, il y avait de moins en moins d'hommes. Ils envoyaient tout le monde au front.
Des jeunes
de 13 ans.
Ouais, oui, oui.
Et effectivement, on est nazi à 13 ans.
Voilà, c'est donc ces questions-là. Et ce qui est important, c'est aussi de réfléchir sur... toutes ces personnes qui étaient plutôt issues d'obédience, de la grande famille politique de gauche, des militants socialistes, communistes, anarchistes, anciens piliers de la République de Weimar ou des juifs communistes, etc., qui ont quitté les pays européens qui passaient sous la botte du fascisme. Donc, beaucoup d'antifascistes italiens, évidemment des antifranquistes espagnols, très présents dans le Liois. Et puis, effectivement, chose moins connue, des Allemands qui ont, dès les années 30, quitté l'Allemagne et sont venus s'installer dans notre région. Alors, certains ont été internés dans des centres d'internement administratif. Il y en avait un à Vif, c'est dans la banlieue sud de Grenoble.
Ouais.
Il y en avait en forêt de Chambaran, il y en avait à Cré, beaucoup en Gervanne, et puis quelques familles dans les baronnies.
Qu'est-ce qu'on appelle un internement ?
C'est des centres dans lesquels on rassemble, avant l'avènement du régime de Vichy, sous la Troisième République déclinante, ce qu'on appelle les indésirables, c'est-à-dire des individus qui sont potentiellement dangereux, parce que des agitateurs politiques potentiels, et en particulier donc, les réfugiés espagnols. Les militants anti-nazis allemands, donc juifs, communistes aussi, etc., etc. Donc on a rassemblé dans des camps, alors qui étaient
Des camps aussi bons que ceux du genre de voyage aujourd'hui.
Oui, c'est difficile de faire des comparaisons, mais disons que c'est des camps de concentration. Hein,
ouais,
d'ailleurs, le mot est utilisé. Il y en avait beaucoup dans la Méditerranée, dans la région de Perpignan. Rizalte, Saint-Cyprien, Canet, etc. Le camp de Gurs dans les Pyrénées. Et puis dans notre région, il y a un certain nombre de ces centres administratifs, d'ailleurs, qui sont souvent mal connus. Par exemple, le camp de Vif, on ne trouve pratiquement aucune archive, on a peu de matière. D'où l'intérêt aujourd'hui de poser au moins la question pour que de jeunes historiens s'engagent dans ce travail-là. Et là, en Ardèche, on va accueillir Bernard Delpal, donc, qui est un professeur à la retraite de l'Université Lyon 2 et qui s'occupe d'une association à Diolfi et qui, depuis des années, travaille avec des petits moyens à une meilleure connaissance de l'histoire du pays de Diolfi, mais aussi effectivement à faire connaître les maquis antifascistes allemands.
Alors ça, c'est quand même étonnant. Ces personnes qui venaient en opposition avec les régimes de leur pays n'ont pas trouvé de soutien en France.
Si, 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 justement. Alors,
Enfin, pour être
ah
parqué comme
oui,
ça.
bah, c'est-à-dire que l'État français, oui, bah, l'État, il est voilà, on est dans un contexte de montée des nationalismes, de peur de l'internationalisation de la révolution russe, etc. Donc il y a quand même y a quand même des angoisses et toutes les personnes suspectes d'être des agitateurs potentiels sont surveillées par les pouvoirs publics. Mais au sein de la population, certaines d'entre elles vont être très bien accueillies. Donc voilà, là aussi, il y a toujours un hiatus entre les dispositifs publics d'encadrement des populations migrantes et la réalité sociale, parfois de la générosité extrême des populations qui accueillent. Idem pour les réfugiés espagnols.
Oui, ça par contre, ça commence à percer un peu dans l'histoire.
Oui.
Eh bien, donc informons-nous sur les antifascistes allemands dans le sud de Rome. C'était la présentation de la première journée, le 17 octobre, qui se passe donc au Theil. Je lis en pratique, puisque j'ai le fly devant moi, que ça va se passer principalement au cinéma.
Oui,
Donc pas dans le musée.
non, le musée, on ira le visiter en fin d'après-midi. Il est petit, donc on espère accueillir une centaine de personnes. Donc c'est vrai que le matin, bon voilà, pour les conférences, on sera dans un lieu susceptible d'accueillir le plus grand nombre de personnes.
Et n'oubliez pas non plus de vous inscrire, puisque c'est obligatoire.
Voilà. Alors, pas nécessairement pour assister aux conférences, c'est plus pour les aspects logistiques, c'est-à-dire les gens qui souhaitent bénéficier d'un hébergement le soir à la chapelle en Vercors, dîner avec nous, etc., etc. Là, on souhaite que les gens s'inscrivent. Mais par contre, l'ensemble de la manifestation est gratuite, entrée libre, hein. C'est-à-dire que si on veut assister à deux conférences, bon, on assiste à deux conférences et on s'en va. C'est plus pour les questions de logistique, voilà, qu'on souhaitait que les gens s'inscrivent.
On va se concentrer maintenant sur la journée du samedi 18 octobre, donc qui, elle, est à la chapelle en Vercors.
Alors avant, le
Oui.
vendredi soir, on organise déjà un petit événement à la chapelle, puisqu'on projette à la salle des fêtes, à 21h, alors ça peut être très intéressant, les rushs inédits d'un film culte hein, qui s'appelle Au cœur de l'orage. Donc c'est le film que tout le monde voyait dans le Vercors durant l'après-guerre. À l'occasion de toutes les commémorations, dans tous les villages, on projetait ce film.
Pourquoi?
Parce qu'il incarnait une certaine idée relativement consensuelle de la résistance française, et en particulier de la résistance du Vercors. Et parce que, en plus, il est donc le cinéaste Jean-Paul Le Chanois, donc l'a réalisé, enfin obtenu le visa d'exploitation en 1948, l'a réalisé à partir d'archives, de scènes authentiquement tournées dans le maquis, par un des cinéastes du maquis qui s'appelait Forestier, de scènes rejouées par les authentiques maquisards à la fin de la
Après,
guerre, et
ouais.
puis de scènes de fiction bon, qu'il a imaginées lui-même. Donc c'est un film extrêmement composite et qui dit bah, à chaud une certaine vision de l'histoire de la résistance française et en particulier du Vercors. Donc c'est un film culte alors aujourd'hui, il est difficile à recevoir. C'est un film en noir et blanc, avec une musique très pompier, avec un discours aussi. C'est un film relativement consensuel, hein, qui était pensé par un cinéaste communiste, mais qui a obtenu la primature du gaullisme. Donc il a fallu qu'il édulcore peut-être aussi certaines lectures de la résistance.
Le but étant de vraiment rendre glorieux, héroïque, voire
Voilà la résistance
la
française,
résistance.
à partir de l'exemple du Vercors. Et puis dedans, y a plein de petites pépites. Voilà, quelques scènes sont extrêmement intéressantes. Et donc ce film, il a été censuré plusieurs fois, il y a eu un montage un petit peu compliqué. Et donc des historiens, donc en particulier Sylvie Lindeperg, qui est une historienne de la Sorbonne, a réussi à retrouver avec des étudiants quelques morceaux inédits de ce film, des rushs, et qui seront présentés au public ce soir-là. Donc personne ne les a jamais vus. C'est de la matière d'archives incroyable, et qui seront analysés par l'historien Gilles Vergnon.
Et comment les présentent-elles, elles, quel intérêt ils ont, ces rushs?
C'est-à-dire que c'est des scènes qui ont été coupées pour le montage. Donc certaines sont très très dures. Hein, par exemple, il y a des scènes assez violentes de tonte
Ah oui.
à la Libération, par exemple. Ça, c'est le versant sombre, en particulier dans la ville de Voiron. Des scènes assez incroyables. Mais il y a aussi des événements plus joyeux, par exemple, qu'au de la vie quotidienne de maquisards. On voit, par exemple, un groupe de maquisards dans une cabane qui fait un petit band de jazz avec banjo, saxophone. Et ça, c'est aussi la vie ordinaire de ces jeunes gens qui, sont à la montagne et s'amusent de temps en temps.
Oui, il fallait bien qu'ils relâchent la pression. Bien, donc ce film, ce sera le vendredi 17, déjà à la chapelle en Vercors. Et sinon, pour samedi 18.
Disons qu'on a souhaité nous accueillir donc des chercheurs confirmés, comme je parlais tout à l'heure de Jean-Marie Guyon, puis aussi des jeunes. Alors par exemple, on invite Emmanuel Chevet, qui est un jeune historien de l'Université de Bourgogne, qui a fait une thèse sur les liens entre la gendarmerie et les maquis. Donc avec cette question qui va nous poser, répression et où implication. Alors, on fera un petit éclairage particulier sur la brigade de la Chapelle, parce que c'est la seule brigade française qui a intégralement débrayé et pour gagner le maquis. Donc, tous les gendarmes de la Chapelle sont allés au maquis, et ça, c'est un truc qui nous semble intéressant à faire connaître.
Ouais, il y a d'autres endroits où la gendarmerie était le service.
Voilà, évidemment. Alors, parfois,
presque le bras armé interne
du régime de Vichy, évidemment. Ouais. Et puis, parfois, des doubles jeux, c'est-à-dire qu'on fait le jour son travail au service de l'État français, et puis le soir, on protège, le cas échéant, de jeunes réfractaires.
C'est intéressant.
Donc c'est un petit peu de ça dont il sera question.
Et sinon, est-ce que tu peux nous parler de ce que propose Philippe Anu?
on va faire un truc collectif avec Olivier Valade, qui est un historien grenoblois, Pierre-Louis Filet, qui est le directeur du musée de la résistance de Vassieux, et puis Anne Perrotin-Dumont, qui est une historienne archiviste, qui a édité un récit du maquis de son père. Son papa était maquisard dans le Trièves, à Trémini, puis ensuite dans le Vercors. Et il a écrit un très beau texte qui s'appelle « La vie inimitable », qui est resté à l'état de manuscrit. Il l'a écrit en 1946, on vient de l'éditer seulement. Et c'est grosso modo un récit de formation d'un jeune homme. C'est un intellectuel, c'est un normalien. Il vient de la région de Bordeaux et il va devenir montagnard à travers l'expérience du maquis. Et ce récit est passionnant. Donc on va lire des extraits de ce texte. On va déambuler dans les rues de la Chapelle en Vercors, aller voir des stèles. Alors, par exemple, y a une stèle qui rend hommage à Marseille. Marseille, c'est Fabien Rey, c'est une figure du maquis, c'est un peu un genre de coureur des bois québécois, qui était vêtu de, souvent on le présente en photo, vêtu de peau de bête, il a des pelisses de renard sur lui, il a une grande barbe, il fait un petit peu ours des montagnes. Et lui, c'était le ravitailleur du maquis. Donc on va raconter son histoire devant la stèle de la maison où il a vécu. On va aller voir des sites pas très loin du collège Sport Nature où il y a des petits morceaux de forêt. On évoquera la vie quotidienne des jeunes maquisards. Et puis évidemment, on ira voir aussi des lieux peut-être un peu plus difficiles comme la cour des Fusillés où il y a eu des massacres.
Comment devient-on montagnard au moment du maquis? C'est par la force des choses, on s'oblige,
Ouais, mais ça c'est une question super intéressante parce qu'il y a un imaginaire très fort, en particulier des intellectuels. Les Alpes, elles sont mises en scène des fins touristiques depuis les années 1880, on va dire. Bon, ça commence à Chamonix bien avant, mais disons que le Vercors est mis en scène à des fins touristiques dans la seconde moitié du 19e. Donc il y a des dépliants, donc il y a tout un imaginaire qui se construit chez les notables, qui se diffuse, avec souvent des récits très emphatiques. On part à l'assaut de la montagne, on va découvrir les gorges, etc. Et je pense que chez ces chercheurs, ces jeunes gens, férus de littérature, formés à Paris, formés à Bordeaux, à Lyon ou à Nantes, et je pense qu'à un moment, cet imaginaire-là s'est diffusé. Et pour eux, effectivement, devenir réfractaire au STO, c'est aussi à un moment rentrer dans cette grande mythologie de la montagne, à propos desquelles ils ont lu des œuvres pas inintéressantes. Et je pense que dans l'œuvre de Yves Perrotin, c'est très touchant cette manière qu'il a de se penser comme un homme des montagnes. Moi, j'avais presque envie de faire la comparaison avec des récits de littérature comme les œuvres de, par exemple, Thomas Mann, La Montagne Magique, où ces gens des grandes villes allemandes ou autrichiennes vont dans les sanatoriums dans la montagne et à un moment basculent dans cet autre temps, le temps préservé, le temps non dégradé de la vie en montagne. Et je crois que chez un certain nombre de maquisards, en particulier chez les intellectuels, il y a quand même cette idée-là qui se joue.
C'était les premiers retours à la Terre.
Je ne le lis pas forcément dans cet esprit-là, mais effectivement, il y a l'idée que là-haut, on peut peut-être penser le monde autrement, quoi.
Et est-ce qu'il parle aussi quand même de la rudesse de...
Bien sûr, oui, il y a des témoignages de la vie quotidienne, aussi des problèmes d'alimentation, de sous-alimentation, de peur aussi, parce qu'ils sont quand même traqués. Bon, là, je parlais de l'aspect un petit peu mythifiant, mais c'est vrai que la vie quotidienne de ces personnes, c'est quand même aussi devenir réfractaire à ostéo, c'est renoncer à son identité essentielle, entrer en clandestinité, donc potentiellement être condamné à la prison, voire à la déportation. Donc évidemment que c'est un acte qu'on peut qualifier de résistance civile, mais un acte d'engagement très très fort.
Et puis il y a quand même ce point qu'on a commencé à citer au début, la construction d'une mémoire collective qui est transmise directement par les gens qui l'ont vécu, qui donc aujourd'hui meurent les uns après les autres, à un travail de mémoire collectif proposé par tout le monde.
Alors ça c'est un sujet effectivement très, très important. La mémoire, on sait que c'est plein d'affects finalement, c'est le présent du passé, c'est-à-dire comment nous, en tant qu'individus, en tant qu'êtres socialisés dans nos villages, dans nos écoles, comment nous, à un moment, on pense ce récit des années noires. Et puis, il y a les organismes publics qui doivent gérer, entre guillemets, cette mémoire. Alors, ça peut être l'État, ça peut être le ministère de la Culture, c'est les grands musées nationaux. Puis aujourd'hui, c'est les départements. C'est-à-dire que le département de la Drôme a une politique de la mémoire, puisqu'il gère un musée départemental de la Résistance, le parc aussi. Et donc, comment ces institutions publiques Bah, apprend-elle cette matière qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas évidente? Un parc qui doit à un moment faire vivre Mémorial national de la résistance, ça va pas de soi. Un parc, il a peut-être au départ plus de compétences à travailler sur la gestion des populations de bouquetins, par exemple.
Oui, c'est ça, on s'attend plutôt à la protection de la nature. Plutôt.
Voilà. Et pourtant, finalement, cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, dans le Vercors, c'est la signature du Vercors. C'est comme ça que ce territoire est très connu dans le monde entier. Donc, bah, finalement, ce n'est pas inintéressant qu'on nous, aujourd'hui, on s'interroge, 70 ans plus tard, sur la manière. Et là, on aura à cette occasion l'aide donc, de Marina Guichard-Crozet, qui est anthropologue et qui est responsable du service mémoire du département de la Haute-Savoie. Et qui va aussi nous apporter son témoignage sur la manière dont, en Haute-Savoie, ils appréhendent cette thématique.
Vraiment juste pour croiser, pas forcément pour eux.
Oui, je pense que c'est ça. C'est pas bon qu'ils nous fassent pas de leur expertise. Non, c'est aussi de leur doute, parce que je pense qu'effectivement, ça va pas de soi. Hein, on est aussi parfois très contrôlé, et puis c'est un sujet qui a à voir avec aussi des enjeux politiques, voire politiciens. Hein, on se souvient de la manière dont le candidat à l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, durant l'entre-deux-tours, a fait un rapt sur la mémoire des Glières, qui a provoqué la colère d'un certain nombre d'anciens résistants, et puis ensuite qui a suscité donc, un certain nombre de polémiques, dont ce fameux rendez-vous du mois de mai chaque année, et la jeunesse du collectif citoyen résistant d'hier et d'aujourd'hui, sur le plateau de Glières, par exemple. Donc on voit bien que ça suscite beaucoup de passion collective, et bah comment un organisme public il appréhende tout ça, ça va pas de soi. Donc je trouve intéressant qu'elle vienne nous faire part de son expérience et de son témoignage.
Et puis on imagine que lorsque tous les témoins, on va dire oculaires, qui ont vécu ces périodes-là seront définitivement partis, il va y avoir encore plus d'instrumentalisation si on
n'est
pas
sûr.
Bien protégé avec un discours.
Oui, tout à fait. Alors c'est pour ça qu'il est intéressant aujourd'hui, en bonne intelligence, de faire la part des choses, de réfléchir avec l'éducation nationale aussi, puisque les enseignants du secondaire, ils transmettent ça dans les programmes, avec les chercheurs, évidemment, de toute obédience, hein, parce qu'il y a aussi, c'est très clivé, le monde de la recherche, avec des géographes, avec des sociologues, avec des anthropologues, avec des historiens, mais aussi avec les responsables de musées et d'un parc, comment aujourd'hui on peut aussi transmettre ce récit au public.
Et pour prolonger la journée, des spectacles. Alors, concert lecture sur la résistance, introduction à la vie de Jean Cassou. Qui est ce Jean Cassou?
Alors, Jean Cassou, c'est quelqu'un que moi, je ne connais pas très très bien, qui est un résistant du sud-ouest de la France, hein, de la région de Toulouse, qui était un intellectuel et qui a écrit et appris par cœur des poèmes. Qui sont extrêmement touchants, que donc Frédéric Nefché-Herlian, donc dit Nefché aujourd'hui, qui est un poète, rocker, slammer, chanteur marseillais, viendra dire, hein, c'est-à-dire qu'il choisira, ben, je crois que ça, il explicitera, pour nous donner à entendre la voix de la résistance autrement, peut-être justement que sous le seul angle des chercheurs. Je trouve que ça nous semble important que les scientifiques, les musées, l'éducation nationale n'a pas le monopole de la réflexion sur la thématique de la mémoire. Il y a beaucoup de créativité dans le théâtre aujourd'hui, beaucoup de créativité dans le champ de la musique actuelle. Chez les rappeurs, par exemple, c'est un sujet qui est fréquemment convoqué, même dans des groupes très engagés comme La Rumeur, par exemple. La Rumeur, ils s'intéressent beaucoup à la mémoire, par exemple, des troupes coloniales dans la Seconde Guerre mondiale. Donc je trouve très intéressant qu'ils viennent aussi nous apporter leur lecture de ce phénomène. Donc effectivement, bah, Nefché, lui, parlera de Jean Cassou. Et puis, on a la chance, nous, d'avoir dans le Vercors un grand résistant qui s'appelle Pierre-Yves Canu, qui habite Saint-Agnan. Il n'était pas résistant dans le Vercors, lui, hein, mais il a été résistant et il a bien connu Jean Cassou. Donc il viendra nous dire, c'est un monsieur qui a 90 ans et quelques, qui est très sympathique. Et il viendra nous expliquer aussi sa rencontre avec Jean Cassou en le videredou du concert.
Nefché, donc, je vais avoir tout de suite après au téléphone et qui nous expliquera un petit peu son travail. Alors, tout ceci se passe à la Chapelle en Vercors le 18 octobre à partir de 13h30, mais vous pouvez venir la veille pour voir les rushs.
Oui, et puis alors, il y a une personne dont je voulais parler aussi. Nous, on est ravis d'accueillir Martin de la Soudière, qui est un anthropologue ruraliste français assez connu, qui travaille à l'EHSS à Paris, et qui est spécialiste depuis 40 ans de la région de la Margeride, dans le Massif central. Et c'est plutôt un ruraliste, quelqu'un qui travaille sur justement la vie de ces populations montagnardes, d'autres montagnes que les nôtres, du Massif central, des régions assez difficiles. C'est le pays de la bête du Gévaudan.
Oui.
Comme ça, de ces plateaux, des confins de l'Auvergne.
Un peu abandonné.
Un petit peu à l'abandon, effectivement. Martin, lui, il va interroger justement les mémoires de ce grand maquis qu'on a un petit peu oublié, qui est le maquis du Mont-Mouchet, qui est un maquis où s'est passé des événements très durs, et comment aujourd'hui les populations rurales reçoivent et mettent en scène cette mémoire. Et ça nous semblait très important aussi qu'il puisse être des nôtres à cette occasion.
Pour, encore une fois, un nouveau croisement sur
les territoires.
Sur les territoires. J'ai oublié de dire que c'était les élèves de l'école de musique des Quatre Montagnes qui faisaient les concerts lecture sur la résistance. Ça, c'est bien aussi.
Ouais, ça, c'est super intéressant. Là aussi, bah voilà, ça fait partie de ces fameux 80 événements dont je parlais. Sylvie Chaban, la directrice de l'école de musique, est passionnée par la thématique de la résistance. Elle les fait travailler régulièrement sur cette question et ils vont nous dire, alors moi c'est pareil, pour le moment c'est une surprise, hein, c'est un peu le mystère de ce rendez-vous, ils vont nous dire, chanter, jouer quelques thèmes musicaux en rapport avec cette thématique de la résistance.
Donc rendez-vous le 17 octobre, c'est au Teil à partir de 9h30 et puis le 18 octobre c'est à la Chapelle en Vercors à partir de 9h30 également. Des renseignements, où ça ?
Les renseignements entre guillemets locaux, donc pour la partie Vercors au CPE, donc au 04 76 94 30 40, sur le site internet du CPE. Et puis pour toutes les personnes qui souhaitent suivre l'intégralité du séminaire, en particulier bénéficier d'un hébergement ou dîner avec nous à la Chapelle en Vercors, impérativement s'inscrire sur le site du réseau Mémora. Donc un site internet. Hein,
que je vais noter sur la page. Ouais.
Voilà.
Voilà, je vais le remettre. Et Mémora, ça s'écrit M-E-M. O-R-H-A, voilà. Rhône-Alpes, hein, mémoire Rhône-Alpes. Philippe Anu, historien du CPIE Vercors, merci.
Merci Baptiste.
Et à très bientôt pour continuer à suivre un petit peu les actions du CPIE. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et on va passer à Nefché que je vais avoir par téléphone. À bientôt.
À bientôt.
Oui, allô.
Bonjour Nefché.
Bonjour.
Tu es donc sur ta terrasse pour faire ce petit interview au téléphone avec nous sur RDIWA pour poursuivre la présentation des journées du 17 et du 18 octobre, et notamment celle du 18 octobre à la Chapelle en Vercors, puisque tu es un artiste, un chanteur plus particulièrement, et tu vas nous faire un spectacle, un concert.
Oui, effectivement, je suis sur la terrasse, donc c'est cool. Il fait beau à Marseille, c'est agréable. Voilà, et on prépare un petit peu aussi ce spectacle qui est un spectacle un peu particulier. En fait, c'est un spectacle en deux parties. Il y aura bien sûr les chansons du groupe, quoi, du dernier album, aussi des albums précédents. Mais il y aura toute une partie autour d'une lecture de texte de Jean Cassou, qui s'appelle 33 sonnets composés au secret. Arrêté pour fait de résistance, il a été enfermé donc en prison, et c'est dans son enfermement en fait qu'il a écrit. En fait, il n'avait ni stylo, ni papier, ni rien pour écrire, et un petit peu pour sauver sa peau, pour tenir quoi. Chaque soir, il composait des poèmes qu'il apprenait par cœur. Au bout de sa captivité, il en avait 33 et il les connaissait par cœur. Quand il est sorti, il les a recopiés et édités. Voilà, c'est ces poèmes-là qu'on va mettre en musique et voilà, essayer de dire quoi ce 18 octobre.
Alors ça colle parfaitement bien avec justement ces journées qui sont là pour honorer la mémoire de la résistance, mais je voudrais qu'on plonge un petit peu dans ton univers, Nefché. En fait, c'est pas ton premier poète que tu as adapté en musique.
Non, pas du tout, j'avais mis des textes de Jacques Prévert en musique. On en avait fait un disque d'ailleurs qui s'appelle « Le soleil brille pour tout le monde ». C'était le fruit d'une rencontre avec la petite fille de Jacques Prévert, voilà, qui nous avait invité à découvrir d'autres textes. Voilà, je les avais mis en musique et le disque a existé. On a fait vraiment une tournée incroyable avec ce disque. On a rencontré plein de gens. Des gens ont aimé ce disque aussi. C'était très militant, très engagé. Et c'était une facette de Prévert, assez violente dans son engagement qu'on connaissait finalement très peu. Voilà, donc après j'ai travaillé aussi sur d'autres poètes, sur Christophe Tarkos, sur Arthur Rimbaud, voilà. Donc le rapport avec la poésie, c'est quand même un peu le cœur de mon travail, quoi, on va dire. Moi, c'est sûr que j'écris des poèmes, après j'en fais des chansons, mais je sais pas comment dire, mais travailler le texte, en français en tout cas, et essayer de le rendre par la déclamation, voire par le chant, avec la musique, bah ça me plaît, c'est ce que j'ai choisi de faire. Là, c'est Jean Cassou. On va voir ce que ça va donner.
Est-ce que ces poètes ont une musicalité, selon toi, qui est d'entrée de jeu perceptible et qui te donne, du coup, cette envie de les mettre en musique? Ou alors, tu fais un vrai effort d'adaptation?
Parfois, le rythme, le souffle, l'ambiance, on va dire, est tout de suite là. Et donc, c'est très, très facile. Ou le contraire, ou alors c'est justement parce que c'est tout de suite là que c'est difficile à faire. J'ai vraiment pas de règles, quoi. J'allais dire que pour Jacques Prévert, ce qui s'est passé, peut-être que je pourrais donner un exemple, ce sera plus concret. Mais par exemple, Jacques Prévert n'était pas un de mes poètes favoris. Et le fait d'avoir le mettre en musique, pour moi, ça a été finalement assez simple parce que j'avais pas d'affect particulier. Donc j'ai pu le trahir gentiment, quoi, de temps en temps, à dire des choses avec le sourire alors que ça pouvait être très grave ou le contraire. Enfin, m'amuser avec ça. En tout cas, faire un travail d'interprète, d'interpréter les textes, c'est-à-dire de leur donner à l'oral une dimension qui n'ont peut-être pas à l'écrit ou et inversement d'ailleurs. C'est des compléments, quoi, qui permettent d'accéder peut-être plus fort au sens du texte. Donc voilà, je n'aurais pas vraiment ce que je sais, c'est que pour Prévert, le fait que je n'aimais pas spécialement Prévert, ou en tout cas pas toute son œuvre, ça m'a grandement facilité la tâche. Parce que du coup, j'ai pu voilà, lui manquer de respect, on va dire, ou en tout cas ne pas essayer de respecter un truc que j'avais au plus profond de moi. Voilà. Après, il y a d'autres poètes, parce que je les ai beaucoup aimés, beaucoup fréquentés, j'y ai accès plus facilement. Et, c'est, voilà. Et puis il y en a d'autres, c'est une catastrophe. Il y a des poètes que j'adore, mais que je n'arrive pas du tout à dire, parce que je les aime trop. Alors voilà, oui, c'est un peu... C'est pas facile à raconter, en tout cas.
Tu choisis des poètes aussi pour leur message?
Oui, c'est sûr que ce que raconte un texte est important, évidemment. Après, le mot message, moi, j'aime pas trop ça. Moi, c'est plutôt pour les questions qu'ils nous posent et la façon dont ils nous renvoient à nous-mêmes et à nos choix. La façon, finalement, dont on doit essayer de vivre dans ce monde de fou, quoi. Voilà, je pense que c'est plus que le message, moi, c'est les questions que posent les poètes qui m'intéressent.
Tu viens de citer ce monde de fou, mais quelles sont les autres questions qui te touchent, Nefché?
Ah, ça, sur la terrasse, là, tout de suite, là, oui. Alors, oulala. Bon, à part, effectivement, une certaine forme d'engagement, encore que ça me gêne beaucoup, l'engagement, mais il y a des façons de faire et des façons à trouver pour que justement l'engagement ça puisse avoir des répercussions. Parce que ce qui est intéressant dans un texte, c'est qu'au-delà de, voilà, de la question qu'il peut poser, c'est la façon dont il va nous saisir et il va peut-être modifier notre quotidien. C'est sûr que c'est le texte action est important pour moi. Alors après, qu'est-ce qui peut me toucher d'autre? Eh bien, peut-être la façon dont on formule quelque chose qui nous est très commun, mais avec une originalité et une clairvoyance qui peut me bouleverser. Voilà, le quotidien, peut-être aussi le quotidien, la façon dont on est pris dans notre quotidien et comment on le décrit. Après, il y a des sujets évidemment très, très importants aujourd'hui. Voilà, le nucléaire, l'alimentation, l'accès à l'école pour les enfants. Voilà, bon, il y a plein de choses comme ça qui pourraient être l'objet de textes qui vont m'intéresser, mais c'est pas facile à dire en tout cas.
Du coup, t'es un résistant?
Alors c'est sûr que le lien que j'ai avec le mémorial du Vercors et Philippe justement que je connais maintenant très bien, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a beaucoup échangé. C'est sûr que le mot résistance, c'est des mots qui peuvent paraître parfois très chargés, très lourds. Je sais pas si c'est toujours le meilleur mot, quoi, parce que il y a des choses à inventer aussi. Il n'y a pas que des choses à essayer de garder, à préserver. Il y a des territoires nouveaux à conquérir. Donc dans le mot résistance, pour moi, ce qui me plaît, il y a l'idée de nouveaux réseaux à créer, de nouvelles choses à inventer. Voilà, il n'y a pas que des choses à protéger qu'il faut garder, parce que si on nous l'enlève, ça, on va mourir. Voilà, il y a aussi des nouvelles choses à inventer, parce que tout n'est pas extraordinaire dans ce qu'on a établi. Et la société telle qu'on l'a conçue, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des limites, qu'on voit qu'il y a des horreurs même parfois. En tout cas, moi, je pense que le mot résistance, qui me plaît, c'est qu'on pourrait le charger de nouveaux territoires à conquérir.
Dans la résistance, évidemment, il faut avoir en tout cas un objet commun contre lequel résister. Toi, tu nous parles ici de quelque chose de plus ouvert, de plus tourné vers l'avenir. Ce serait quoi l'avenir de Nefché?
Je suis pas un porte-drapeau, quoi. Tu vois, je vais pas être en tête de manif. Je vais pas être, Alors, c'est vrai que j'ai le micro, c'est vrai que je suis derrière, mais je préférerais avoir le porte-voix, quoi, de temps en temps. Mais m'effacer, être qu'une voix, ça me va bien, moi, tu vois. Le poète, c'est souvent quelqu'un qui écrit et qui pose des questions, quoi, du fin fond de son intimité. Tu vois, par exemple, mon dernier disque, ça s'appelle Rétroviseur, c'est une sorte de plongée dans mon adolescence à Marseille. Ce n'est en aucun cas un disque sur Marseille ou un disque où je veux véhiculer un message. Non, c'était... Le mot rétroviseur, c'est aussi une façon de renvoyer le miroir à chacun d'entre nous, de voir les histoires qui nous ont constitués et qui font qu'on est les individus qu'on est aujourd'hui. Et qu'avec toutes ces histoires, cette somme d'histoires qui sont parfois glorieuses, parfois pas du tout glorieuses ou inavouables, on devient des individus et on vit dans ce monde ensemble. Voilà, c'est... Waouh, l'avenir, ben... Je sais pas si je vais y répondre tout de suite, tiens. Je vais peut-être attendre et je donnerai la réponse le 18 octobre. À la fin du concert, non?
C'est pas mal, écoute.
Ça motivera les gens peut-être à venir, ou pas d'ailleurs, ou pas du tout. Ah non, mon Dieu, il va nous faire une révélation terrible. Non, non, je sais pas, c'est pas facile. Le fait de faire de la musique, tu vois, d'essayer de vivre de la musique déjà, c'est pas facile du tout, tu vois, de faire des tournées, sortir des disques. Aujourd'hui, les gens n'achètent plus de disques, donc ils vont inventer de nouveaux rapports avec la musique, etc., etc. Entre ça qui me concerne, où j'essaye d'être acteur avec ma coopérative à Marseille, j'ai une coopérative culturelle que j'ai fondée, où on organise les tournées, on fait nous-mêmes les disques, enfin, tu vois, on a une sorte de, comme ça, d'autonomie. Les grandes questions, tu vois, de notre société, je suis pas un homme politique, je sais pas. Personne ne pourrait répondre à tout ça, mais en tout cas, moi, j'allais dire que ma fonction ou mon rôle, si j'essaie d'en avoir un, c'est d'essayer de poser des questions sur tout ça de façon assez humble, on va dire. Je sais pas comment dire. Voilà.
L'art a quand même cette importance de pouvoir nous sortir du discours politique pur, du discours militaire, de la mémoire. Et on parlait beaucoup de ça avec Philippe. Aujourd'hui, on n'est plus dans le devoir de mémoire, mais plus dans un travail de savoir comment est-ce qu'on le véhicule.
Oui, la transmission est super importante, oui.
Mais la transmission qui va devoir être inventée par des gens nouveaux, comme toi, qui n'a pas vécu cette guerre. Et donc, t'emparer d'un texte pareil, c'est un acte politique quand même.
Ah ben pour moi, c'est complètement un acte politique, bien évidemment, oui. Mais l'art a quand même, de façon plus ou moins étendue, je veux dire, chaque personne qui décide de prendre la parole, que ce soit dans la sculpture, que ce soit dans la peinture, le cinéma, il y a au fond de ça quelque chose de politique. Alors c'est plus ou moins politique au sens où on l'entend, c'est-à-dire, mais quand même, raconter une histoire de deux individus qui s'aiment, ça raconte quand même l'histoire de deux personnes, et deux personnes au milieu des autres, etc. etc. Donc c'est toujours en creux, il y a toujours une question politique. Après, moi j'accorde beaucoup d'importance dans mon mode d'expression. Si l'art devient uniquement un divertissement, là ça me va pas, quoi. Et quand je vois en plus les espaces quand même de diffusion de l'art se réduisent, ça devient hyper compliqué de diffuser de la nouveauté. Même les grosses radios aujourd'hui ne diffusent plus ou très peu de nouveautés. Voilà, il faut se frayer un chemin là-dedans, surtout quand on chante en français. Et je me plains pas du tout, moi j'ai beaucoup de concerts aujourd'hui, mais tout peut changer très vite. Donc moi je prends chaque concert, chaque moment qui m'est donné comme un moment de parole, un moment aussi d'émotion, un moment de rencontre, de partage avec le public. Alors partage, je ne sais pas ce qu'on partage, mais en tout cas de rencontre, et de pouvoir exprimer ce que j'ai à dire. Je ne cherche pas la consensualité, je cherche juste à faire ce qui m'a conduit à choisir ce métier, c'est-à-dire voilà, parfois mettre les gens dans l'inconfort, parfois dans une jolie émotion, et j'ai pas un but uniquement de divertissement.
Alors venez rencontrer Nevché le 18 octobre à la Chapelle en Vercors dans le cadre des journées Mémoire de Maki. Et puis comme tu nous l'as un petit peu glissé à droite à gauche, on va s'intéresser aussi beaucoup à la production de ce dernier album qui s'appelle donc Rétroviseur. Et
ouais.
Donc comment est-ce que tu travailles? Dis-nous-en un peu plus sur cette coopérative, votre mode de distribution, tout ça.
Effectivement, il y a une coopérative, c'est-à-dire que moi je suis membre fondateur, on est quatre membres fondateurs d'une coopérative, on s'est associés, puis on a commencé à prendre des gens pour travailler avec nous, et en fait on partage des employés, on a mutualisé, c'est tout un système de mutualisation, et aussi une sorte de cercle d'énergie vertueuse, un petit peu comme ça, d'être à plusieurs, de s'entraider, on a des compétences différentes, donc on les additionne. Après, on est tous séparés, on a des activités très différentes, des univers artistiques différents. Il y a en gros, sur les quatre membres fondateurs, il y a deux artistes, Mikio Montanaro et moi-même. Et puis après, il y a un tourneur, Limitrop Productions, et il y a aussi un programmateur, là, qui s'appelle Seconde Opinion, qui fait de la promotion locale en région PACA, mais pas que. Alors, qu'est-ce qui se passe après individuellement? Ben, moi, pour produire un disque, en gros, je cherche un petit peu des financements. Comme tout le monde, c'est-à-dire d'utiliser de façon optimale l'argent que j'ai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce dernier disque? Eh bien, on a fait quand même pendant 2 ans et demi beaucoup de concerts avec le disque précédent, Le Soleil Brille pour Tout le Monde, les chansons avec des textes de Prévert. Et donc, quand on n'a pas beaucoup d'argent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est que pendant qu'on en tournait, eh bien, si on a un jour de vide ou 2 jours, eh bien, on loue un studio ou on va chez un ami, il nous prête un endroit. On sort des micros et on commence à enregistrer. Et le lendemain, on fait un concert ailleurs, on prend le bagage, on va ailleurs. Et donc ce disque a été enregistré un petit peu comme un carnet de route. Enfin, je ne l'ai pas trop dit, mais c'est un petit peu ça. C'est un carnet de route. On est allé à Dakar pour faire une tournée en Afrique de l'Ouest. Et on a enregistré là-bas. Je suis allé à La Réunion pour faire des concerts. Et bien, j'avais une semaine de libre. J'ai appelé un ami qui avait un studio là-bas. J'ai enregistré. Et voilà, et ça s'est additionné comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai essayé de rassembler tout ça. Et j'ai été voir Jean Lamotte, qui est un réalisateur quand même très connu, et surtout extraordinaire, qui a travaillé avec, Alain Bachung, avec Nandésir, mais aussi avec Salif Keita, avec Raphaël, avec Pauline Croze, avec Dominica, avec Lojo aussi. Des gens super, quoi, des artistes avec qui il a fait des disques remarquables. Et j'ai été toujours ému par le travail de cet ingénieur du son. Et c'était un de mes rêves aussi de le rencontrer, de travailler avec lui. Donc je l'ai rencontré, on a trouvé un terrain d'entente pour travailler ensemble, à la fois humain et financier. Puis on a fait ce disque, ce dernier disque, et je suis très heureux de ce chemin. À la fois avec mes musiciens, qui sont les miens depuis maintenant quelques années, en tout cas avec qui je travaille depuis des années, et puis avec Jean Lamotte, voilà, avec une nouvelle aventure qui est née.
Je voudrais aussi que tu nous parles de Stéphane, qu'on connaît bien, qui est un ami à nous, qui en fait est ta basse.
Stéphane Paulin, oui, Stéphane, c'est un garçon qui travaille depuis Gibrillon, hein, on a une amitié fidèle, quoi. C'est vrai qu'il habite plus dans ta région, donc avant,
voilà, c'est ça.
Et donc Stéphane a une double compétence dans le groupe, c'est-à-dire un double apport. D'abord, il est bassiste du groupe, c'est un musicien remarquable, et qui a une présence sur scène vraiment unique et belle, j'adore, et qui sert ma musique de façon vraiment fine, nuancée, enfin voilà, il lui donne vraiment toute sa pleine mesure, et aussi c'est un ingénieur du son remarquable, c'est lui qui fait les prises de son d'ailleurs. Et Jean Lamotte était super heureux que ce soit Stéphane qui fasse les prises de son, parce que Stéphane les fait super bien, quoi.
Et le super avantage, c'est que comme il est avec toi quand tu tournes, eh ben, tu peux enregistrer à Dakar avec ton ingé son ou n'importe où, quoi.
Exactement, exactement, exactement. Ah ben oui, mais ça c'est des hasards, ou pas de hasard d'ailleurs, des choses qui font qu'on se rapproche de gens. Être avec quelqu'un, ce n'est pas toujours que de l'amour. Beaucoup de choses qui font qu'on est heureux ensemble et donc on s'apporte aussi mutuellement beaucoup de choses.
Et oui, c'est ça.
Alors après, je ne saurais pas dire ce que j'ai apporté à Stéphane, mais...
Ben, je l'interviewerai pour
moi,
savoir.
Je sais en tout cas ce qui m'apporte voilà, au quotidien et au-delà de la musique.
Comme ça, on a présenté un petit peu aussi ce dernier travail, Rétroviseur. Évidemment, tu le distribues tout seul.
Non, justement. Alors, oui, on l'autoproduit, mais par contre, non, on a des partenaires. C'est-à-dire, dans une aventure collective, ce qui est intéressant, c'est qu'elle continue à l'être après. Et quand, on ne vit pas en autarcie. Moi, je déteste l'autarcie. Après, on a demandé à un distributeur national de s'occuper de ça. Et donc, ça a été une nouvelle rencontre, une nouvelle façon de travailler et étendre les pratiques. Et puis même pour la tournée, on a décidé sur cet album-là de s'ouvrir et d'aller à la rencontre de Zamora. Et Zamora était venu un peu me chercher. Et moi, je leur ai dit, bah, écoutez, si vous voulez, mais alors nous, on a déjà fait un peu tout le boulot. Mais alors, si on met le pied dans le même plat, pourquoi pas? Et ils ont été enthousiastes à cette idée-là. Et c'est des gens, voilà, avec qui on s'est bien entendu, avec qui on décide de collaborer, tu vois. C'est pas juste, on fait pas tout nous-mêmes. En fait, moi, je suis hyper fier de dire qu'on n'est pas en autarcie. Parce que ça fabrique encore de la différence. Ça fabrique encore de la fermeture, au final. Oui, on a une énergie. On est 15 personnes à travailler à Marseille. On a monté une coopérative. Mais je suis pas tout seul, déjà. Je suis avec d'autres personnes. Et ces autres personnes-là, c'est ouvert, quoi. Et ce qui est génial, c'est justement qu'on puisse montrer qu'on peut travailler avec des gens qui sont profondément différents de nous et qu'on trouve des façons de travailler. Que ce n'est pas la guerre, quoi. Et qu'on peut s'en sortir et qu'on peut aller vers des gens qui, voilà, sont pas tout à fait comme nous, mais avec qui on va trouver des terrains d'entente. Et
du coup,
c'est important, en tout cas, pour moi.
Que penses-tu du téléchargement sur Internet?
Écoute, je peux pas lutter face à ça. Moi-même, je copiais des cassettes. Après, je le vois, hein, franchement, on vend quasiment pas de disques, quoi. Donc, les disques, aujourd'hui, il faut inventer quelque chose, il faut trouver un autre chemin. On y réfléchit beaucoup, à savoir... Parce que la réalisation d'un album, c'est quand même magnifique. C'est un travail, moi, que j'adore. C'est une plongée, c'est un truc super intime. Mais bon, si ce n'est plus commercialisable, il va falloir qu'on trouve autre chose. Parce que, d'abord, on n'a plus d'argent pour les faire aussi bien qu'avant. Ce sont des objets qui n'ont plus la même beauté, la même force. Et encore, moi, je me bats comme un fou pour que les livrets soient magnifiques, que l'enregistrement soit beau, le son soit... Voilà, que quand on met le disque sur la platine, il y a une vraie émotion aussi de... Il y a quelque chose, qu'il y a un univers qui est proposé, qui est travaillé, même si c'est fait de façon cheap, parfois. Mais après, si ça, ce n'est plus une source de revenus, et que c'est hyper compliqué de faire des concerts parce que les gens n'ont plus d'argent pour aller assister aux concerts, je me pose beaucoup de questions, voilà, sur... la place du chanteur aujourd'hui dans la société, et comment on va faire pour continuer à produire des choses, quoi. C'est pas du tout pessimiste quand je parle de ça. Je veux pas casser le moral du tout aux gens ou dire attention. Non, c'est qu'est-ce que je pense du téléchargement? Je dis voilà, quand je reçois la SACEM aujourd'hui ou quand je reçois les relevés de vente, je me dis waouh, j'ai fait ce disque-là, on a investi tant d'argent pour avoir ce retour-là. Bon, après, on a vendu pendant les concerts, on vend énormément de disques. Tu vois, les gens voient, ils voient l'objet, ils disent waouh, c'est beau, on le prend, puis le concert était super. On a envie d'avoir cette petite madeleine à la maison. Voilà. Moi, je dis que c'est plutôt à nous d'inventer des choses attractives. Je ne sais pas encore quoi, on y réfléchit beaucoup en tout cas.
Peut-être qu'un jour, il y aura une politique culturelle importante, suffisante en tout cas pour que les artistes puissent s'exprimer partout, tout le temps, sans forcément que tout le monde paye pour profiter de leur musique. Ça peut être aussi un avenir possible.
Oui, bien sûr, oui. Effectivement, non, mais aujourd'hui, je veux dire, les gens ont accès à la musique gratuitement. Ils n'ont pas à payer pour avoir accès à la musique.
Et ce qu'il faudrait maintenant, c'est que vous soyez payé pour que les gens aient accès gratuitement à la musique.
Ouais. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, ça voudrait dire de toujours être dépendant d'un système de subvention. C'est questionner la subvention. Je ne remets pas en cause la subvention. Elle est fondamentale. Mais beaucoup de gens restent sur le carreau aujourd'hui. La subvention, c'est quelque chose de super important, mais qu'elle doit être additionnée à d'autres façons, à d'autres ressources. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en musique actuelle, c'est très simple. C'est soit tu remplis des salles, ton disque marche, tu remplis des salles, soit tu n'existes pas, tu es mort. Il n'y a pas de chemin intermédiaire, quoi. Je comprends mieux ce que tu as voulu dire, j'avais pas compris en fait.
Tu as peut-être des questions un peu alambiquées. Nefché, on va se quitter.
Mais oui.
Par contre, j'aimerais bien que tu nous choisisses, que tu nous présentes et que l'on diffuse pour se quitter un morceau du dernier album Rétroviseur.
Mais je crois que je vais choisir la chanson qui s'appelle Marseille, qui parle de l'endroit où je suis né, quoi. Et où je vis encore.
Merci d'avoir passé cet instant avec nous.
Oui, c'est un vrai plaisir en tout cas. Merci de m'avoir posé ces questions qui permettent de réfléchir. C'est vachement bien quoi, quand on a le temps. Quoi. Quand on a le temps de parler, qu'on a plus de 3 minutes pour s'exprimer.
C'est vrai que tu es un habitué des radios qui vont très vite.
Oh là là, mon Dieu, mais tout va très vite partout, tout le temps.
Alors qu'on est tellement mieux quand on est sur sa terrasse. Merci, Nefché.
Tranquille, voilà, on se pose des questions. Merci beaucoup en tout cas, et puis donc rendez-vous au samedi, quoi, au 18 octobre. Là.
Et surtout, ouais. Un bon concert par avance.
Ouais, merci beaucoup.
On est reparti dans l'hiver. On est reparti dans l'été. Personne sur cette plage, si ce n'est les prophètes et les Catalans. Dans les rues, il y a partout la religion, les messes sous les luminaires, faites sonner le limonaire. Et si c'est ça, l'éternité, j'en prendrai bien une seconde, je m'en irai. Ton décolleté était ouvert sur la corniche Kennedy. Je vois tes miches à la garçonne, des flaques bleues gardent l'estac. Je ne vois pas Frida Kahlo, je pense plutôt à cet album qui vient de Terry Richardson. Et si c'est ça, l'éternité, sur ton visage, sur cette plage.